Arnaud Casper, sculpteur de métier, voilà, c'est ma profession.
Depuis ?
Et depuis une vingtaine d'années, et je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs grâce à Lilieu. Lilieu est complètement imbriqué dans mon œuvre de sculpteur. Je suis un passionné de nature sauvage, je suis un passionné par cette île, en fait. J'ai grandi en qualité d'estivant, puisque mon père, en fait, dans les années 60, a acheté un petit terrain au Sapin. Il a construit sa maison. Mon père, donc Éric Casper, architecte sur l'île. Bon nombre d'îlets le connaissent. Et d'ailleurs, cette figure sur le port, mon père est décédé il y a à peu près 2 ans. Et sa figure était très connue sur le port, parce qu'il allait toujours chercher son journal, d'abord à la maison de la presse, et aller après boire son petit café sur le port. Et cette figure généreuse, ronde, avec toujours la pipe au bec, voilà, c'est ce qui reste ici comme image de mon père. Et donc moi, je me suis mis à la sculpture, en fait, dans les années 90, suite à une transatlantique à la voile que j'ai réalisée, où j'ai été à cette époque submergé d'émotions par, évidemment, la découverte de la nature, de la faune marine. Et ça a été un déclic pour moi, puisque j'ai fait des études d'art et j'ai embrassé la profession de publicitaire. J'étais directeur artistique à l'âge de 23 ans dans un très gros groupe d'agences publicitaires qui s'appelait
qu'on va pas nommer.
Et en fait, pendant des années, j'ai fait un travail, ce que j'appelle le travail de un peu bonimenteur. C'est-à-dire, je fabriquais des campagnes de publicité, je fabriquais des annonces de publicité. Et quand j'ai fait cette transatlantique, lorsque j'ai été submergé d'émotions par la beauté de la nature, j'ai été aussi très touché par les traces de pollution. Et quand, quelques mois après, je suis venu passer mes vacances à Lilieu, j'ai créé à cette époque l'homme-poisson. L'homme-poisson, en fait, qui symbolise le réveil de la conscience humaine. Alors l'homme-poisson, il est pratiquement, il est un petit peu partout. D'abord, ça a été un monument de 7 mètres de haut que j'ai réalisé dans ma ville, à Courbevoie, ma ville de l'époque où j'avais mon atelier. Cette sculpture est toujours à Courbevoie. En fait, c'est une sculpture qui fait 7 mètres de haut, qui représente quelque part deux hommes-poissons imbriqués l'un sur l'autre. Un tourné vers la terre et l'autre tourné en fait vers les océans, en fait raccordé par la Seine, puisqu'il a vu sur la Seine à quelques centaines de mètres. Et donc la Seine étant reliée aux océans, il y a une belle image symbolique à travers ce symbole, donc qu'on retrouve aujourd'hui sous forme de pendentifs, sous forme de sculptures diverses et variées, et notamment comme une sorte de témoignage de nos origines et de notre aussi relation avec les éléments. Avec la nature. En fait, je pars du principe que nous étions des poissons, nous sommes devenus des hommes. Donc ça signifie pour cela le réveil de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes environnementaux, de pollution, etc. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette démarche. Et je crois que l'île-Dieu y est pour beaucoup. Parce que c'est vraiment un des endroits les plus sauvages de notre continent. Et c'est quelque chose... Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment... Je tiens à remercier... bien sûr, monsieur le maire, ainsi que toute l'équipe municipale, parce que c'est un projet. En fait, l'idée de ce projet vient de Jean-François
Henri.
Voilà, et je trouve que...
On l'appelle.
Voilà. C'est vrai ? Donc, alors là, je vous présente le Sequana. Et quand cet appel d'offres a été lancé, c'était pour moi un bel hommage. Et à la fois un défi, puisque bien sûr quand il s'agit d'un appel d'offres, on est plusieurs artistes à répondre. Et je me suis vraiment fixé comme défi de rendre hommage bien sûr aux Sénégalais, aux artilleurs, à l'histoire de ce bateau qui a été torpillé en 1917 par un sous-marin allemand. Et puis c'est non. Alors évidemment il y a les passagers de ce bateau, il y a quelques parmi les naufragés. Alors, il y a 3 passagers et 6 membres d'équipage, ainsi que 198 tirailleurs sénégalais. Donc, quand j'ai appris qu'il y avait cet appel d'offres, l'idée m'est venue immédiatement.
Spontanément.
C'est-à-dire que j'ai été visionner tout de suite les images qui ont été filmés par les plongeurs de l'île-Dieu, mmh. hein, l'association Ange, tout à fait. C'est ça. Et j'ai été... moi, je suis passionné, en fait, je fais du snorkeling comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ici, à l'île-Dieu, quand j'étais petit, je plongeais simplement avec un masque et un tuba.
Et des palmes.
Et des palmes. Éventuellement des palmes. Et on était peu équipés dans les années 60, mais on avait quand même une paire de palmes. Et puis, surtout, à l'époque, on trouvait encore des hippocampes à l'île-Dieu. C'est-à-dire que moi, gamin, j'ai pêché toutes sortes d'animaux, mais j'ai déjà pêché des hippocampes, malgré moi. Hein. Mais c'est vrai que parfois, on remontait dans nos épuisettes des petits animaux étranges. Et c'est pour moi un symbole parce que c'est vraiment la nature, l'expression de la nature. Aujourd'hui, ces hippocampes, on n'en trouve plus sur les lieux. On les retrouve en fait à l'aquarium qui se trouve en face sur le continent. C'est l'aquarium de La Rochelle. Voilà, et on a...
C'est pour ça qu'il y a un hippocampe sur la statue.
Exactement. Il y a deux petits hippocampes sur la statue. Donc c'est le lien avec, je dirais, cette nature sauvage préservée qu'il y avait à l'époque. Et donc le souhait de tout le monde, c'est de continuer à préserver cette nature, bien sûr. Donc, en fait, j'ai fait une aquarelle, parce qu'il faut bien sûr présenter un projet, et je l'avais imaginé à cet emplacement précis. Mmh. Et donc, de mémoire, j'ai dessiné, bien sûr, la colline, les roches, les rochers, en perspective la plage des Vieilles, et l'horizon avec ce ciel bleu un petit peu nuageux, et c'est ce même ciel qu'on a d'ailleurs aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui a séduit aussi l'équipe municipale. C'est la vraisemblance du projet. Alors, techniquement, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé, et puis on va faire le tour de l'œuvre, oui. Et je vais raconter un petit peu la symbolique des différents éléments qu'on trouve sur ce monument. Donc, techniquement, il s'agit d'une fonte à cire perdue. C'est-à-dire que le métal, quelque part, va remplacer la cire. Et on appelle cire perdue parce que la cire, une fois qu'on a réalisé sa pièce en cire, qui est donc une pièce unique, là en l'occurrence, c'est un monument qui est unique au monde, qui est ici à l'île-Dieu, et il n'y aura pas de copie.
Il n'y aura pas d'autre, oui.
Non, il est impossible de copier cette œuvre. Donc c'est vraiment une pièce unique, elle est signée de ma main et elle est numérotée 1 sur 1. Mm-hmm. Ce qui est vraiment, c'est la garantie que c'est une pièce unique. Donc quand j'ai fait cette aquarelle, spontanément, avant même presque de savoir que j'avais remporté ce concours, j'avais fait deux maquettes. J'avais fait cette maquette sobre qui, avec cette tête d'Africain, vraiment en hommage aux Sénégalais.
Oui.
Et cette tête d'Africain, elle est, il y a un petit, en fait, dans son cours, il y a un rappel de l'esclavage. Même s'il ne s'agissait pas, là, dans le cas présent, d'esclaves, on est quand même dans
on
cette...
On n'est pas loin de cette optique.
On n'est pas loin. C'est-à-dire, ça fait un écho à l'esclavage. Moi, je pense évidemment aux victimes, à ces 198 Sénégalais et les naufragés du Sequana, en pensant aussi aux familles. Et c'est un très, très bel hommage, aujourd'hui, un siècle plus tard, de rendre hommage à ces familles et quelque part dénoncer aussi, d'une certaine façon, la Grande Guerre.
Donc, c'est un devoir de mémoire.
C'est un devoir de mémoire. Et c'est pour ça que c'est vraiment un monument qui est très symbolique ici sur l'île-Dieu. Parce que depuis la place de la Norvège, avec l'Imer, il n'y a pas eu de monument de ce type. Voilà. Donc en fait, spontanément, je me suis inspiré tout de suite de mon esquisse et j'ai découpé à la fonderie même, avec un cutter, des cartons. Et j'ai la forme que vous avez ici, elle a été faite d'abord en carton. Ensuite, je l'ai enduit de cire liquide avec des pinceaux qu'on trempe dans la cire. On épaissit peu à peu le carton. Parce qu'évidemment, si on moule ou si on fond un carton, on va avoir la forme du carton. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que depuis que je suis enfant ici, donc ça fait maintenant 50 ans que je viens à l'île-Dieu, mes amis d'enfance sont des îlets. Et mes amis d'enfance ont plongé sur le Sequana et en fait m'ont raconté des anecdotes. Déjà à l'époque, quand on était gamin, ils me montraient leur trésor. Et on remontait à l'époque des hublots, de la vaisselle, des accessoires en fait du Sequana. Mmh. Donc j'ai un ami qui a une assiette du Sequana avec notamment une assiette en céramique avec un coq. Et je vais tout spontanément, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le coq, c'était le symbole, le logo, en quelque sorte, de la compagnie France-Afrique qui affrétait ce bateau, le Sequana.
C'est pour ça qu'il y a un coq sur la statue également.
Alors, il y a un coq sur la statue, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses sur la statue. Bien sûr, il y a le texte officiel. Comme j'ai cherché, en fait, à faire rêver...
C'est vous qui l'avez imaginé, le texte ?
Non, le texte, c'est un texte protocolaire officiel qui correspond vraiment à ce choix de rendre hommage à la mairie. Donc, c'est la mairie, en fait, qui a conçu ce texte. Moi, j'ai repris mot par mot, en évitant de faire des fautes, bien sûr, tous les éléments de ce texte. Pour réaliser ce texte, j'ai fait appel en fait à un graveur qui m'a d'abord, dans un premier temps, gravé le texte dans une plaque. Cette plaque, je l'ai moulée, je l'ai réalisée ensuite en cire, et comme j'avais donné un galbe à cette forme, j'ai plié, en fait, j'ai déformé la plaque en cire et je l'ai intégrée dans mon morceau de carton. Ensuite, je suis revenu mettre de la matière sur l'ensemble, parce que quand on est à 40 mètres de fond depuis un siècle, forcément, il y a des algues qui s'incrustent sur la coque du Sequana, et en fait, d'où cet effet de matière. Et alors, vous allez voir également des trous dans cette... ce qui n'est pas sans rappeler l'usure, mais surtout le torpillage. Et quand on se met face au monument, et donc quand on regarde la mer, on s'aperçoit qu'il y a un orifice, un trou, et quand on regarde à travers ce trou, on a la parfaite position du Sequana. Donc ça, c'était une idée aussi de Monsieur le maire, et une idée qu'on a eue en commun. Mais c'est une idée qu'il a eue, lui, de son côté, et j'ai abonné dans son sens, dans la mesure où il y avait vraiment quelque chose, une interaction entre finalement le visiteur et le monument.
Et le monument.
C'est-à-dire que spontanément, comme il est à peu près à l'échelle, à la hauteur des yeux, et d'ailleurs ce monument, et c'est important de l'évoquer pour moi, il est transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'île-Dieu, c'est toutes les générations sont présentes à l'île-Dieu, et c'est, puisqu'on parlait du devoir de mémoire, et bien c'est aussi les générations futures qui vont vivre avec ce monument et qui vont presque l'interpréter à leur manière. Et c'est bien de donner des informations qui, d'ores et déjà, raconte un peu l'histoire.
C'est vrai que cette histoire était peu connue sur les lieux.
Ah, tout à fait peu connue sur le lieu, et moi j'ignorais totalement l'histoire véritable de ce Sequana. J'ai toujours su qu'il y avait des épaves tout autour, mais voilà, le Sequana est vraiment une épave, c'est un très grand bateau, 500 passagers, c'est vraiment un bateau en acier, donc c'est pour ça qu'il est quasiment intact aujourd'hui, il n'a pas bougé. Et donc, ça fait partie des spots, entre guillemets, des plongeurs ici. À peu près à 6000 des côtes, je ne sais pas, en Zodiac, il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes, j'imagine, pour y aller. Mon ami avait des... Philippe Fournier, voilà, je peux le nommer, voilà, un gars de l'Île-Dieu, plongeait à l'époque, était capable de souder. Il en a fait son métier, d'ailleurs, à un moment donné. Il était capable de souder sous l'eau. Enfin, bon, c'est vraiment... là, on a affaire à des plongeurs professionnels, quoi. Et l'intérêt du coup, c'est que ce film qui a été fait m'a nourri.
Vraiment inspiré.
Totalement. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on découvre le galbe de cette forme plane, en fait, pour évoquer la proue du navire, voilà, qui a forcément une forme galbée. Et on retrouve différents éléments que les plongeurs connaissent parfaitement. Donc en fait, la tête de cet Africain, qui est un Africain solide. On sent que c'était vraiment quelqu'un qui était capable d'aller...
On peut dire un roc, oui.
Ouais, un roc, et puis surtout d'aller dans les tranchées. Voilà. Et la façon dont... Le regard est très émouvant. La technique de travail, en fait, est une technique qui rappelle le travail de Rodin ou de Camille Claudel. C'est un travail très figuratif, mais très expressif. On va dire que c'est un monument expressif. Dans ce sens, il n'est pas si classique que ça.
Il a une dureté dans le regard, j'ai l'impression, non ?
Il a une dureté dans le regard, et je crois que là, c'était nécessaire, parce que le monument, l'histoire du monument n'est pas trop bisounours quand même. C'est un monument aux morts, il ne faut pas l'oublier. Donc la gravité du visage, effectivement, est là pour le rappeler. Et puis également, il y a un maillon de chêne avec un maillon lui-même ouvert qui peut rappeler l'abolition de l'esclavage. On n'est pas loin des affranchis, on n'est pas loin des affranchis en fait. Hein. Et ce qui m'intéresse, c'est la matière du bronze qui est très vivante et qui se marie parfaitement avec cette matière qu'on va retrouver sur la coque du Sequana. Donc il y a une face en fait très très classique du monument. Et quand je parlais tout à l'heure du côté transgénérationnel de ce monument, c'est comment faire qu'un monument soit, surtout sur un site classé, là où il est placé, comment faire que ce monument ne soit pas trop dur, trop austère, et en même temps soit un petit peu ludique et intéresse les jeunes générations.
C'est la première fois que vous travaillez sur un site classé ?
Alors, j'ai des monuments qui sont déjà classés et qui ont été intégrés dans des monuments historiques. Donc, mes monuments sont de ce fait classés. Mmh. D'ailleurs, en général, ça passe par la DRAC, hein, la Direction des Affaires Culturelles. Et là, je pense que ce monument, évidemment, devient un monument classé. Voilà, il sera surveillé par la gendarmerie nationale, par la police municipale, etc. Parce que c'est vraiment c'est un symbole et on ne touche pas au symbole. Donc là, en fait, pour ce qui est du texte, j'ai choisi un texte en gravure, c'est-à-dire en creux pour le texte, et pour les deux dates essentielles du monument, c'est-à-dire 1917-2017, la date de l'inauguration, donc un siècle, j'ai choisi à mettre les lettres en relief. Ce qui est intéressant d'un point de vue technique, parce qu'on a vraiment, dans les effets de ce monument de la sculpture, deux types de travail complètement différents. Et d'ailleurs, les lettres en creux ont été comme gravées, et les lettres en relief sont légèrement polies, surfacées et légèrement polies. Ce qui fait deux effets visuels complètement différents et qui se complètent. Voilà, donc on donne de l'importance, en fait, à la date. Donc le bronze, c'est un matériau pérenne, c'est-à-dire qu'il est là pour des siècles. On aura tous disparu, que le monument sera encore là. Et cette pierre aussi, qui est une pierre de l'île, est une pierre qui est très symbolique. Alors je l'ai choisi avec l'équipe municipale à distance, parce que compte tenu du peu de temps que j'avais pour réaliser ce monument, j'ai pas pu avoir le loisir de venir à l'île-Dieu les choisir.
Et en fait,
alors ce monument, il a été réalisé en moins de 3 mois. Voilà, donc c'est record. Alors, je me suis vraiment investi. Alors, à titre symbolique, personnel, par rapport à ce lien que j'ai avec l'île-Dieu, aussi, d'une certaine façon, et ça c'est le côté humain, ça m'appartient, mais c'est important de le dire, un hommage quelque part à mon père, qui m'a fait découvrir cette île. Et puis, c'est un monument que je dédie véritablement aux îlets. Voilà, parce que...
comme on disait tout à l'heure, un devoir de mémoire.
Un devoir de mémoire. Et puis, moi, j'ai été formé à la pêche, et puis formé tout court par les anciennes générations. C'est-à-dire, j'ai très bien connu Pépé Louis, Patagos, qui m'a initié à la pêche au Patagos. Je crois que j'étais probablement le seul estivant et probablement... peut-être même le seul gamin à embarquer sur son bateau. Il y avait vraiment, de la part de ce personnage, une générosité. Non pas pour faire de moi un pêcheur, parce que je n'ai jamais été pêcheur, pour partager tout simplement un savoir. Et j'aimerais bien aussi partager mon savoir et ma technique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, que parallèlement à ce monument, j'ai réalisé un petit film qui sera, je l'espère, le jour de l'inauguration sur YouTube, mais
visible
sur Internet, bien sûr, un film qui va expliquer tout ce que je vous raconte là de manière visuelle.
Donc, toute la démarche de votre travail.
On parlait tout à l'heure, en fait, de fonte à cire perdue. La fonte à cire perdue est une technique très particulière. C'est une technique qui assez... J'ai pas envie de dire aléatoire, parce que c'est pas le bon terme. Mais c'est vraiment un savoir-faire. Là, il faut vraiment un petit peu comme... On peut pas être marin, on peut pas s'improviser marin. Eh ben, c'est pareil, on peut pas s'improviser fondeur. Donc il y a des lois, en fait, des lois techniques. Et quand on réalise à la fois un portrait très massif et une plaque assez fine, sinon le monument, il ferait 400-500 kilos, ça serait impossible.
Il pèse combien, là
Là, il fait à peu près une centaine de kilos. Hein, c'est pas rien. Donc en fait, ce monument en bronze, il a une certaine épaisseur. Mais il arrive aussi qu'on ait des accidents, surtout que la technique de fonte à cire perdue n'est pas appropriée pour faire des plaques. Parce que vous voyez, les plaques de nos cheminées, par exemple, hein, d'antan ou actuelles, sont faites en fonte au sable. Et la technique est complètement différente. C'est-à-dire que la fonte au sable, on a systématiquement la même épaisseur et ça ne bouge pas, etc. Là, comme il s'agit d'une cire à fonte perdue, on a des accidents. Et beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi cette forme de l'île-dieu découpée, est-ce que c'est une volonté de l'artiste ou est-ce que c'est un choix délibéré? En fait, elle n'apparaissait pas dans ma maquette à l'origine. Mmh. Elle est venue comme un accident. Et c'est assez étrange parce que si on fait le tour du monument, et il y a un petit détail, et je dis ça, c'est finalement on est tous des enfants, donc on va tous, je pense, aimer la regarder et faire le tour de cette œuvre. D'ailleurs, la manière dont elle est positionnée sur ce rocher, qui pourrait être symboliquement une île, hein, c'est un caillou, il a une forme, quand on le regarde de loin, un petit peu d'étrave de bateau, donc c'est une pierre totalement plate, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les pierres à cupule. Donc, autre élément assez symbolique ici à l'île-dieu, surtout dans ce cadre magnifique. C'est-à-dire là, on fait une interview devant le monument, mais il y a les moutons à côté, il y a les mouettes, on entend le ressac des rouleaux, etc. On est vraiment sur un site classé, mais ce n'est pas que de le dire, il faut le vivre. Quoi. Mmh. Et moi, je me mets à la place des 40 000 personnes, probablement chaque été, qui vont faire le tour de l'île. C'est un passage obligé. Ici, on est vraiment sur un des sites les plus beaux de l'île. Donc
d'ailleurs, ils vont se poser des questions, je pense.
C'est le but aussi. C'est le but, et justement, cette pièce qui est conçue de manière à, quelque part, j'ai envie de reprendre cette expression, éveiller les consciences. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a ce devoir de mémoire, et il y a aussi cette invitation au rêve et au voyage. D'où l'intérêt de faire le tour de l'œuvre. Et en fait, qu'est-ce qu'on devine? Derrière cette carte de l'île-dieu, découpé finalement dans la coque du Bissequana, apparaît un crabe. Et on a envie de le découvrir, ce crabe, et de le voir de face, bien sûr. Et donc on fait le tour et on y est invité par un poisson symbolique qu'on retrouve sur le Sequana. Il y a beaucoup de tacos sur les Sequana. Mmh. Il y a des congres, il y a des tourteaux qui se nichent, et puis aussi il y a des lottes qui se posent comme ça. Ça, ce sont les plongeurs qui m'ont raconté, qui sont posés en fait sur les parties planes du Sequana. Donc on est vraiment dans quelque chose, j'ai envie de dire, presque un peu féerique. Donc quand on fait le tour de cette œuvre, on s'aperçoit qu'en fait l'œuvre, elle est véritablement en trois dimensions. Elle est véritablement en trois dimensions. Et on découvre au dos de cette œuvre, en fait, une architecture qui évoque, bien entendu, les structures du bateau. C'est-à-dire qu'un bateau, ce n'est pas simplement une plaque. Il y a des membrures, il est structuré un peu comme un bâtiment architectural. Et d'ailleurs, probablement, mon activité de sculpteur aujourd'hui n'est pas... je parle souvent, je fais beaucoup de références dans mon œuvre à l'architecture, parce que mon père était architecte, mais j'avais aussi un grand-père maçon. Et donc, il y a vraiment une filiation, c'est-à-dire la construction de bâtiments, l'architecture, c'est-à-dire le dessin des plans, et aujourd'hui la sculpture, on est ici, là, vraiment, dans le cas présent, dans quelque chose qui va réunir tout ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment comme l'architecture d'une cathédrale. Et ça a double intérêt. Ça a un intérêt visuel, c'est-à-dire que sur le plan visuel, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ces structures, parce qu'elle évoque vraiment l'intérieur du bateau. Donc on a presque l'impression d'être immergé à 40 mètres de profondeur et on se retrouve finalement face aux animaux qu'on va trouver et à la vie sous-marine qu'on va trouver sur le Sequana. Et puis en fait, on l'évoquait tout à l'heure, ce fameux coq, on le retrouve en filigrane, enfin on le retrouve en bas-relief au dos donc, du monument avec les coordonnées en fait du Sequana. C'est-à-dire qu'un plongeur professionnel, en lisant ses coordonnées, peut parfaitement se rendre pile-poil au-dessus du Sequana. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à descendre un fil à plomb, quelque part, de 40 mètres, et il va toucher le Sequana. Donc, c'est une œuvre très symbolique. Et j'ai voulu que ça garde un petit peu un aspect ludique et qui évoque aussi, qui n'est pas sans référence à Jules Verne, qui est finalement pas loin d'ici, qui est né à Nantes, et c'est ce goût du voyage à travers d'ailleurs la construction de l'aventure, à travers la construction de bateaux, le Saint-Michel, voilà, qui est un bateau qui a été reconstruit à l'identique par une association en fait à Nantes. Et là, j'ai envie de dire, voilà, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que on est vraiment dans le cas présent devant un monument qui fait appel, qui fait des références à notre histoire, mais aussi à notre imaginaire culturel et notre imaginaire poétique, romancier. Enfin bon, c'est vraiment une invitation au voyage.
On peut dire que c'est une œuvre complète.
Je ne sais pas, ça serait trop prétentieux de dire ça. En tout cas, c'est une œuvre. La plupart des gens qui l'ont vue ici, parce qu'on vient de l'installer, là, on est vraiment, on fait cette interview à chaud, j'ai envie de dire, on se rend bien compte que les gens sont un peu touchés par l'émotion. Et je veux dire, là, presque, c'est pas de mon fait. J'évoquais tout à l'heure mon enfance ici. C'est l'île-Dieu qui m'a nourri. Et c'est l'île-Dieu qui fait aujourd'hui que je suis un sculpteur probablement attaché à certaines valeurs et aux émotions. Parce que je crois que tous ceux qui ont connu l'île-Dieu et tous ceux qui vivent à l'île-Dieu, tous ceux qui quittent l'île-Dieu, reviennent à l'île-Dieu. Et
C'est comme une drogue.
C'est comme une drogue, peut-être, mais c'est un peu comme ces pigeons voyageurs qui reviennent toujours au même endroit. Il y a un côté, on dit toujours, moi j'avais cette expression quand j'étais plus jeune, je disais l'île-Dieu, je la surnommais mon caillou, voilà, c'était mon caillou. C'est un endroit où je me ressource et c'est un endroit riche d'inspiration. Voilà, alors je le dédie bien sûr aux générations futures, présentes et puis passées, parce que j'ai déjà eu plusieurs anecdotes. La maison de retraite, il y a des vieillards qui ont encore le récit du Sequana quelques années après le naufrage. Et ici, à l'île-Dieu, on a vu débarquer ces Noirs, enfin ces Africains, alors qu'ici, on n'avait jamais vu de Noirs. Et ça m'a rappelé qu'aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, c'est pareil, il y a des Africains qui n'ont jamais vu de Blanc. Voilà, donc c'est un très beau symbole. Et puis, forcément, en ces temps difficiles, cette politique mondiale, ces guerres qui sont à peu près sur tous les continents, c'est aussi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux réfugiés actuels. Quoi. Mm-hmm. Donc ce monument va avoir des répercussions, j'ai presque envie de dire politiques.